Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamed Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, coup de projecteur sur le bras de fer diplomate entre Paris et les militaires au pouvoir à Niamey. Vendredi, la junte dirigée par le général Abderrahmane Tiani a donné 48 heures à l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, pour quitter le Niger. Refus net de Paris qui estime que les putschistes n'ont pas autorité pour une telle requête. À suivre, le reportage de notre correspondant à Niamey qui a couvert les manifestations des Nigériens demandant le départ de l'ambassadeur. Notre invité analysera les enjeux de ce bras de fer diplomatique à la lumière des codes et de la pratique diplomatique. Nous vous amènerons ensuite à l'extrême nord du Cameroun pour parler des rapports entre éleveurs, pêcheurs et agriculteurs. Des rapports souvent conflictuels du fait de l'accès à l'eau. Des humanitaires tentent de désamorcer les tensions en construisant des points d'eau et des abreuvoirs. Le fait marquant de la semaine, c'est la mort d'Evgeny Prigogine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner. Une disparition qui pourrait modifier les schémas de la lutte antiterroriste dans certains pays du Sahel. À suivre enfin le reportage de notre correspondant au Burkina Faso. Il nous parlera des activités d'un jeune Burkinabé qui offre des formations en entrepreneuriat à ses compatriotes. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Au Niger, un mois après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum, et alors qu'une solution de sortie de crise ne se profile pas, les relations entre la France et le Niger se détériorent. Les nouvelles autorités ont dénoncé les accords de défense et de sécurité qui lient le pays à l'ancien colonisateur et déclaré persona non grata, son ambassadeur à Niamey. De son côté, Paris rejette en bloc, estimant que la junte n'a aucune légitimité. Notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa, nous fait le point des derniers développements dans ce reportage.
Aux alentours de l'ambassade de France à Niamey ce lundi matin, l'ambiance est calme. Quelques éléments des forces de l'ordre sont visibles, en plus du dispositif sécuritaire habituel. L'ambassadeur Sylvain Ité était sommé de quitter le Niger sous 48 heures. Le délai est passé, il est encore là, mais la junte militaire au pouvoir n'a pas réagi. Au sein de l'opinion, l'attitude de la France est décriée.
Dans un pays où il n'y a pas de légitimité, vous n'avez aucune raison de rester ou bien de continuer à persister dans votre entêtement à ne pas vouloir quitter.
À partir du moment où l'ultimatum est terminé, il n'est qu'un simple citoyen français et nous n'en voulons à aucun Français. Il peut vivre sa vie ici, mais pas en tant qu'ambassadeur. Et le pouvoir, les autorités sont capables de lui démontrer cela et le peuple est capable de lui démontrer cela. Il ne peut même pas oser donc faire des actes qui relèvent de son statut ou de son ancien statut d'ambassadeur.
Le week-end dernier, à l'occasion de manifestations de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, cette question du départ de l'ambassadeur et même des troupes françaises établies à Niamey ont encore été évoquées par des manifestants.
Les accords qui ont été dénoncés par les nouvelles autorités prennent fin à partir du 2. À partir du 2, nous allons créer les conditions pour les faire partir et ils vont partir. De gré ou de force, ils vont partir parce qu'ils ne sont pas chez eux. Nous ne voudrons pas de leur présence et il va falloir qu'ils rentrent chez eux. Et nous allons nous battre et nous donner les moyens de les déguerpir sur la terre de nos ancêtres.
Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé lundi, lors de la conférence des ambassadeurs français accrédités dans le monde, le soutien de la France au président du CHU Mohamed Bazoum et aux actions diplomatiques et militaires envisagées par la CEDEAO pour la résolution de cette crise politique nigérienne.
Au Niger en ce moment même, et je salue votre collègue et vos collègues qui nous écoutent depuis leur poste, vous avez rappelé que être diplomate est un engagement, parfois risqué, qui suppose l'esprit de responsabilité que vous avez toujours démontré dans ces situations difficiles, comme les années précédentes nous avions eu à le vivre en Afghanistan ou ailleurs.
À Niamey, alors que la junte continue de consolider son pouvoir, le PNDS, le parti du président déchu Mohamed Bazoum, a dénoncé des manœuvres visant à le diviser. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Merci beaucoup Abdul Razak Idrissa pour ce reportage. Abdul Razak Idrissa qui est au bout du fil avec nous depuis Niamey, la capitale du Niger. Salut Idrissa.
Bonsoir Mamadou.
On vient de le voir dans votre reportage, il y a des manifestations organisées sur place, des manifestations qui semblent bien structurées. Idrissa, comment est-ce que ça s'organise ces manifestations? Qui en sont les initiateurs?
Alors, les manifestations depuis...
Abdul Razak Idrissa, on va vous prier de baisser le volume autour de vous parce qu'il y a des échos là. Alors, je vous le disais, Idrissa, on a vu dans le reportage des Nigériens bien organisés, bien structurés pour manifester contre la France et l'ambassadeur Sylvain Ité. Comment s'organisent ces manifestations et qui en sont les initiateurs?
Alors, ces manifestations, depuis le 26 juillet dernier, sont organisées à l'appel de plusieurs organisations de la société civile, mais aussi à l'initiative de plusieurs mouvements qui se sont créés spontanément, des mouvements dits de soutien aux nouvelles autorités, les autorités du CNSP. Donc, c'est vraiment des initiatives assez diverses. Et après, vous avez aussi à côté beaucoup de jeunes manifestants qui, de façon volontaire, et parce que justement, ils avaient cette soif de manifestation parce qu'il faut rappeler que depuis 2018, il n'y a pas eu de manifestation, de contestation, si vous voulez, de grandes manifestations de contestation. Donc c'est plus ou moins aussi une occasion d'extérioriser un certain nombre de vécus que les populations sont en train de vivre, qu'ils essaient donc d'exprimer à travers ces manifs depuis les événements du 26 juillet dernier.
Oui, Idrissa, vous avez aussi interrogé les manifestants. Alors, quel est le sentiment que vous avez? Est-ce que vous pensez que ces manifestants veulent passer un message à la France ou alors vous pensez qu'il y en a qui veulent tout simplement une rupture des relations avec l'ancien colonisateur?
Oui, c'est des deux. Il y a des messages certainement que beaucoup de manifestants veulent passer à la France, mais il y a aussi à côté beaucoup qui veulent, en tout cas, ne serait-ce que sur le plan de la coopération militaire, qui demandent donc l'arrêt de cette coopération militaire avec la présence des forces françaises dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Beaucoup disent que les résultats ne sont pas au rendez-vous et ils ne comprennent pas que des forces étrangères, la force française notamment, soient là et que le terrorisme continue de gagner de terrain gagner donc sur le terrain. Et donc, vous avez ces deux. Vous avez certains qui veulent passer le message à la France pour lui dire qu'il faut changer de façon de faire, puisque vous savez, c'est depuis quand même une soixantaine d'années que le pays est indépendant après sa colonisation par la France. Vous avez, par exemple, certains manifestants qui vous disent que ça fait 60 ans. Cependant, mais voilà aujourd'hui avec ces événements, avec les sanctions imposées, notamment la coupure de la fourniture électrique par le Nigeria, le Niger ne peut pas satisfaire ses besoins en matière d'électricité. Quel a été sur ce plan, ne serait-ce que sur ce plan par exemple, l'apport de cette coopération, de cette relation avec la France pendant 63 ans? La France a investi beaucoup de choses, mais le Niger aujourd'hui, beaucoup de capitales, beaucoup de villes sont privées d'électricité parce que le partenaire qui nous fournit cette énergie a décidé de suivre donc ces sanctions. Donc c'est un peu de ces ressentis que vous avez lorsque vous interrogez les gens sur cette coopération avec la France. Mais vraiment sur la coopération militaire, la majorité demande clairement son arrêt.
Oui, mais il y a eu beaucoup de manifestations pour soutenir la junte qui a demandé le départ de l'ambassadeur français Sylvain Ité. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle si la junte a annoncé, va donner des suites à éventuel si l'ambassadeur refusait de s'en aller? Est-ce qu'il n'y a pas, Idrissa, des risques de débordement?
Pour l'instant, en tout cas, les autorités du CNSP n'ont pas réagi à l'expiration de ce délai de 48 heures qui avait été donné donc à l'ambassadeur Sylvain Ité de quitter. Nous, en tout cas, nous n'avons pas eu la confirmation de ce qu'il est là ou qu'il n'est pas là, mais les informations font état de sa présence encore sur le territoire nigérien au niveau de l'ambassade.
Une présence qui a été confirmée par le président Emmanuel Macron.
Voilà, donc le président français Emmanuel Macron hier à la rencontre. Mais ici à Niamey, en tout cas, officiellement, il n'y a pas eu de réaction après cette notification du retrait de l'agrément à Sylvain Ité, mais aussi donc du délai qui lui a été donné de quitter. Donc les autorités militaires n'ont pas réagi. Et vous avez donc suivi dans le reportage quelques réactions des citoyens qui estiment pour certains qu'il peut rester comme citoyen français, qu'il ne pourra pas agir en tant qu'ambassadeur et tout le reste. Mais de façon officielle, il n'y a pas eu de réaction à l'expiration de ce délai.
Merci beaucoup Abdoul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique à Niamey et au Niger. Merci pour ces éléments de terrain. Alors maintenant, pour une analyse, nous retrouvons Paul Yombo. Il est expert en diplomatie et en relations internationales. Il est enseignant-chercheur à l'Université protestante d'Afrique centrale. Bonsoir Paul.
Bonsoir Mamadou.
Voilà. On vient de l'écouter sur le terrain. Il y a une forte pression pour que l'ambassadeur de France s'en aille. Alors, vous qui êtes expert en diplomatie, comment ça se passe? Quelles sont les lois et les conventions nationales et internationales qui gouvernent l'accréditation, l'établissement d'un diplomate dans un pays comme c'est le cas au Niger en ce moment?
Eh bien, de façon générale, c'est la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires qui encadre les relations bilatérales, les accords de siège entre un pays, un autre pays, ou un pays et une organisation internationale. Il y a trois dimensions qui peuvent nous éclairer sur la situation présente. La première chose, c'est que la Convention de Vienne de 1961 accorde aux diplomates, à l'agent diplomatique, l'immunité diplomatique. Et l'immunité diplomatique confère à son détenteur la protection de la loi criminelle domestique du pays. C'est-à-dire que la personne du diplomate ne peut pas être incriminée ou arrêtée en principe. La deuxième dimension de la Convention de Vienne qui est pertinente, c'est le concept d'extraterritorialité, qui est une fiction diplomatique qui voudrait que les prémices, le territoire de la mission diplomatique et du domicile du diplomate soient considérés comme faisant partie de son pays d'origine. Et donc, en vertu du concept d'extraterritorialité, qui est aujourd'hui appliqué plutôt de manière large que stricto sensu, les prémices d'une ambassade ne peuvent pas être pénétrées sans l'autorisation de l'ambassadeur ou La troisième dimension, c'est bien sûr que les diplomates ont une protection, la protection de leurs biens. Ils ne peuvent pas être taxés ou imposés et sont donc, à l'abri du fait de payer les impôts et les taxes du pays hôte.
Alors, Paul Yombo, vous venez donc de dresser le cadre légal qui permet à l'ambassadeur de France d'être au Niger. Maintenant, la situation sur le terrain impose une autre analyse. Il y a des putschistes qui sont au pouvoir à Niamey et qui ont demandé à l'ambassadeur de quitter le pays. Et quelle analyse vous faites de cette situation et que pensez-vous de cette sanction?
Eh bien, si on peut ergoter sur la légitimité du régime aujourd'hui présent à Niamey, ce qui reste définitif, c'est qu'ils ont le pouvoir de facto. Et en tant que détenteur de facto du pouvoir au Niger, il est extrêmement difficile pour la France de faire le bras de fer avec les autorités nigériennes au Niger. Et donc, on s'imagine très difficilement qu'un ambassadeur qui est supposé représenter la France auprès des autorités nigériennes reste sur le territoire à la barre au mépris du fait que ce régime ait déclaré cet ambassadeur persona non grata. Donc, c'est une situation qui ne relève pas tellement d'enjeux spécifiques, mais plutôt des questions symboliques. La France qui a déjà été chassée du Burkina Faso, qui a déjà été expulsée au Mali, dont les forces Barkhane et les arbres ont déjà été expulsés de cette zone-là, veut quelque part garder une présence sur cet espace de l'Afrique pour symboliquement marquer ce qu'on appelle sa profondeur géostratégique, étant donné que la France, ayant été plus ou moins expulsée du Moyen-Orient au début des années 2000, n'a plus que cet espace-là en Afrique comme marqueur de sa projection internationale en tant que puissance militaire.
Alors, Paul Yombo, quelles seraient les conséquences si l'ambassadeur de France décide tout de même de rester sur le territoire? On l'a vu hier, le président Emmanuel Macron a dit que l'ambassadeur ne quitterait pas le territoire nigérien. Quelles seraient les conséquences d'un point de vue politique et diplomatique et sur le travail de l'ambassadeur et de l'ambassade de manière générale?
Eh bien, je pourrais reprendre en trois points. Premièrement, au regard de la Convention de Vienne, j'ai cité plutôt qui organise les relations diplomatiques, au terme de l'article 9, s'il décide de rester sur le territoire, malgré le fait qu'il a été déclaré persona non grata, il perd son immunité diplomatique. Et là, il devient un citoyen français ordinaire qui est, disons, en situation d'irrégularité. Et donc là, les autorités nigériennes seraient bien fondées de l'expulser manu militari du territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du point de vue politique, il est difficile d'imaginer que le représentant de l'État français auprès de l'État du Niger, et on voit déjà la situation réciproque, parce que l'ambassadeur du Niger en France, les autorités lui ont retiré son accréditation, elle a rejeté cela, et les autorités françaises la soutiennent dans ça. Donc il y a une forme de cacophonie qui s'installe, on ne comprend pas bien qui représente qui, auprès de qui, pour faire quoi. Et cette situation s'enlise à faire à mesure que le régime en place au Niger reste en place et que l'opération projetée de la CDAO se voit, disons, devient de plus en plus incertain. Le régime se solidifie, a de plus en plus de soutien en interne et, disons, les atermoiements de l'Union africaine ne vont pas dans le sens du départ du régime. Donc, certainement, la France va revenir à des meilleurs sentiments et obéir aux injonctions de la junte nigérienne. Je ne vois pas une autre alternative.
Oui. Alors, pour finir rapidement, Paul, en une minute, quelle est la frontière qu'il y a entre le refus de l'ambassadeur de partir et une éventuelle rupture diplomatique entre le Niger et la France?
Ce qu'il faut dire, c'est que l'expulsion de l'ambassadeur et des diplomates qui travaillent à la mission française au Niger peut s'assimiler à une rupture des relations diplomatiques. En vérité, le niveau d'animosité et de violence qu'ont atteint le discours à la fois du régime de la junte au pouvoir au Niger et de l'autre côté des autorités diplomatiques et politiques françaises, on est bien au-delà de l'escarmouche diplomatique. Mais pour qu'il y ait rupture des relations diplomatiques, il faut non seulement que l'une des deux parties dénonce l'accord du siège qui a créé l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cet acte n'a pas encore été posé formellement, mais du point de vue matériel et opérationnel, il est difficile que ces deux puissances-là, ces deux pays, continuent à entretenir des relations.
Merci beaucoup pour vos lumières, Paul Yombo. Je rappelle que vous êtes expert en diplomatie et en relations internationales. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université protestante d'Afrique centrale.
C'est moi qui vous remercie.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Rendons-nous maintenant au Cameroun, précisément à l'extrême nord. Là-bas, les difficultés d'accès à l'eau sont parfois à l'origine des conflits entre éleveurs arabes Choa et les pêcheurs et agriculteurs Mousgoum. Pour désamorcer les conflits, des initiatives humanitaires sont mises en œuvre. Dans le village de Blablin, par exemple, l'aménagement d'abreuvoirs et de bornes fontaines ont aidé dans le sens de la cohabitation. Voyons cela dans ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Juntap.
Le conflit en 2021 entre les éleveurs arabes Choa et les pêcheurs agriculteurs Mousgoum dans la région de l'extrême nord avait provoqué un déplacement massif de population. Gamboya Talaf, éleveuse, est de retour dans son village, à Blabi.
Lorsque le conflit s'est déclaré, j'ai fui et laissé mes chèvres, mais à mon retour, je n'ai plus rien trouvé. Pour vivre aujourd'hui, je coupe du bois en brousse pour vendre au marché, mais depuis qu'on nous a donné de l'eau, ça a calmé le problème d'accès à l'eau pour nos animaux.
Mahamat Oujourou est aussi éleveur arabe Choa du village Blabine. Pour lui, la mise en fonction des points d'eau et des abreuvoirs a désamorcé les querelles pour l'accès à l'eau.
Avant, les bœufs traversaient pour aller boire de l'eau dans le fleuve. Comme nous avons de l'eau du forage maintenant, les bœufs ne vont plus là-bas. En plus, nous avons de l'eau pour nous-mêmes, mais aussi pour nos bœufs, et on boit l'eau à partir du forage qu'on nous a construit.
Un jeune Mousgoum sous anonymat témoigne que les abreuvoirs construits par la Croix-Rouge internationale sont une source d'apaisement du conflit.
Les Mousgoum, ils ont creusé leur trou. Les Arabes, ils disent que leur élevage, là, ils entrent au bord pour faire boire les bœufs. Les Mousgoum, ils ont dit que non, ça c'est notre petit métier. On mange là-bas et les bœufs là commencent. Les fées qui ont fait de l'eau dans leur camp là-bas, ils descendent avec leurs bœufs.
Plusieurs abreuvoirs et bornes fontaines pour les éleveurs et les agriculteurs ont été aménagés par la Croix-Rouge dans le cadre du projet de réhabilitation du système d'alimentation et de distribution en eau potable. Jérémy Justelin, coordinateur eau et habitat de la Croix-Rouge internationale au Cameroun.
Pour l'instant, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un succès, mais il reste encore énormément à faire sur ce projet qui, avec aussi un volet sur lequel on a travaillé, c'est le volet en fait de construction de bornes fontaines communautaires pour que même les populations les plus vulnérables, et je pense notamment aux personnes déplacées suite aux problèmes d'insécurité dans la zone, puissent bénéficier d'une eau en quantité et d'une eau de qualité. Donc des difficultés d'accès à l'eau potable qui sont atténuées, je dirais, et qui vont permettre, je l'espère, aux populations de développer économiquement parlant.
En août et décembre 2021, un conflit dans la région de l'extrême nord avait fait une soixantaine de morts et selon le HCR, quelques 27 000 réfugiés camerounais sont toujours présents sur le sol tchadien. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
À présent, le fait marquant de la semaine, Evgeny Prigojine est mort. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a péri dans un crash d'avion le 23 août dernier. En Afrique, où Wagner ne cachait plus ses ambitions expansionnistes, la mort de Prigojine suscite des interrogations et des inquiétudes, notamment dans certains pays du Sahel. C'est le cas au Mali, où les médias ont abondamment commenté cette actualité. Pour en parler, retrouvons Bakary Cissé. Il est le rédacteur en chef de la Radio Clédou. Salut Bakary.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Focus Sahel. Alors, comment est-ce que la presse a accueilli la nouvelle de la disparition de M. Prigojine? Que dit-on dans la presse malienne?
Bon, d'une manière générale, et vous le savez, hein, ici officiellement, les autorités de transition ne reconnaissent pas donc le groupe Wagner, mais parlent ici plutôt d'instructeurs russes. Hein. Voilà, pour ces motifs, d'une manière générale, la presse malienne n'a pas laissé une large place donc à cette information. Mais il faut reconnaître donc l'onde de choc également a été senti. Certains confrères se sont interrogés sur l'avenir de cette société après la disparition, vous l'avez dit tantôt, tragique de son patron. Macron et d'autres trouvent que la société en question étant une fabrication du président Poutine, il trouvera très bientôt donc le remplaçant donc de Prigogine dans les cas contraires, donc les sociétés, la société va tout simplement disparaître. Voilà, donc là c'est ça quoi. Donc d'une manière générale, la presse malienne n'a pas vraiment travaillé sur ce dossier-là dans la mesure où les autorités maliennes ne reconnaissent pas vraiment cette société Wagner.
Oui, vous dites que les autorités maliennes ne reconnaissent pas la société Wagner. Il se trouve quand même que les relations entre la Russie et le Mali se sont affermies ces derniers temps. Alors, quel est le sentiment de la population par rapport à la relation entre la Russie et le Mali? Qu'attendent exactement les Maliens de ce pays?
Oui, les Maliens, en tout cas, attendent beaucoup de cette coopération. Donc, l'entente veut être cordiale hein, entre les deux pays, cette fois-ci. Dans un discours, là, on se rappelle, hein, du ministre de Malien, des Affaires étrangères et de la coopération internationale, il disait, ceci, je cite, « Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Donc, cet amour de la Russie envers le Mali a gagné le cœur de nombreux Maliens aujourd'hui, et il s'est accentué lorsque son homologue russe même a dit, je cite également, des équipements, des munitions, des armements et la formation des officiers maliens pour que Bamako puisse se défendre efficacement contre le terrorisme.
Contre le terrorisme,
donc, tout
effectivement.
Tout cela vraiment a gagné le cœur des Maliens.
Voilà.
Le terrorisme, effectivement. Donc tout cela a gagné le cœur des Maliens, raison pour laquelle les Maliens quand même
ont accueilli
avec bras ouverts.
Bakary Cissé, vous êtes le rédacteur en chef de la radio Clédou, une station partenaire de VOA Afrique. À présent, la note positive de cette édition, on se rend au Burkina Faso, c'est la dernière étape de notre voyage au Sahel. Là-bas, des jeunes arrivent à faire bouger les lignes, malgré le contexte sécuritaire et humanitaire difficile. Parmi eux, Afizé Ouidraogo, un jeune qui impacte la société à travers des formations en entrepreneuriat. De nombreux apprenants se disent satisfaits de collaborer avec ce jeune qui a participé en 2022 au YALI, le Young African Leaders Initiative, une initiative du département d'État américain de Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Nous sommes ici dans une des séances de formation de Afizé Ouidraogo. Il a été sollicité par une banque de la place pour l'administrer. Il a 32 ans.
Beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas leurs clients.
Et cela fait une dizaine d'années que ce diplômé en maintenance industrielle s'adonne à la formation de jeunes entrepreneurs. Afizé est réputé et apprécié dans ce qu'il fait.
C'est un jeune dynamique. C'est un jeune talentueux, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut vraiment donner un plus à l'entrepreneuriat.
Moi, personnellement, j'ai une idée de projet. Donc, avec les échanges, nous arrivons à mieux comprendre comment bien structurer notre projet. Ça va nous permettre d'être demain de grands entrepreneurs. Je peux dire que M. Afizé Ouidraogo est un jeune qui impacte beaucoup la jeunesse à travers tout ce qu'il fait.
De l'autre côté de la ville, le quartier s'appelle Somgandé. Afizé vient d'arriver dans un de ses bureaux.
Ici, vous êtes au sein de l'association Koura, où je suis moi-même membre, ancien président de l'association Koura, aujourd'hui membre du conseil supérieur de cette association-là. Ça fait depuis 2017 que je suis membre de l'association. C'est une association qui contribue beaucoup à l'amélioration du climat des affaires, surtout pour la jeunesse.
À la question de savoir qu'est-ce qui le motive tant, Afizé répond.
Grosso modo aussi, c'est de pouvoir pour moi contribuer aussi au développement de mon pays. Donc, parce que former les hommes, avoir des hommes de qualité, c'est ça aussi qui fait la valeur d'un pays. Burkina Faso aussi n'est pas ce qu'on dirait entre guillemets un terrain favorable, mais c'est un terrain aussi où on peut tout créer.
Des acquis, ce jeune pense avoir engrangé.
On a eu à travailler avec BF1 sur le projet Pépite d'entreprise dans lequel aujourd'hui je suis jury toujours depuis la première édition. Donc il y a pas mal d'actions dans l'écosystème entrepreneurial aussi que j'ai pu en tout cas faire.
C'est à avec ce reportage de Lamine Traoré que nous mettons terme à cette autre édition de Focus Sahel. Merci à tous nos invités qui ont participé à travers leurs expertises, leurs points de vue. Merci également à nos correspondants qui nous ont envoyé des nouvelles fraîches du Sahel. Mouhamadou Oumfa à ce micro, Georges Léonard Sagno assurait la mise en onde et Trésor Matondo assurait la production de cette émission qui était diffusée évidemment sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous vous remercions d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. À très bientôt sur VOA Afrique. Au revoir.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.